Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussao.
Le ministre de la fonction publique au chevet des survivants et des familles des disparus du naufrage de la semaine dernière à une vingtaine de kilomètres en amont de Bumba sur le fleuve Congo. Le dernier bilan de cet accident fait état d'une soixantaine de corps repêchés, quelques rescapés et une centaine de disparus. Les récentes attaques des hommes armés à Komanda et sa périphérie dans le territoire d'Irumu ont occasionné le déplacement de plus de 100 personnes. L'accès étant difficile dans cette contrée à cause de l'insécurité, ces personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles, indique Ocha. Notre invité, c'est le sénateur Hippolyte Mutombo Mbwembwe. Il a déposé fin septembre à la Chambre haute du Parlement un projet de loi pour une exploitation efficiente de mototaxis. Le cafouillage et désordre constaté sur toutes les routes à travers le pays avec le transport par mototaxi est une conséquence d'un manque d'encadrement et des textes juridiques, déclare-t-il. Bonjour à tous. Nous venons de l'apprendre. Un drame s'est produit le week-end dernier sur la route Likasi dans le Haut-Katanga. Un bus de transport en commun a pris feu. La plupart des passagers ont été calcinés. Certains témoins parlent d'une cinquantaine de victimes. Information donnée aussi par plusieurs sources. Ce bilan n'est pas encore confirmé par les sources officielles. Retour sur cet événement avec Jean Gandou.
De nombreuses sources indiquent que ce grand bus de transport en commun venait de Kolwezi et avait à son bord plusieurs passagers. Arrivé à la hauteur du village Kawama, il est allé percuter un camion en stationnement qui transportait des sacs de braise. Au même moment, un autre camion citerne contenant de l'acide en provenance de Kolwezi, voulant éviter le grand bus, l'a quand même percuté, puis s'est renversé et l'acide s'est répandu. Quelques passagers ont réussi à se sauver. Tout d'un coup, ce bus a pris feu. Certains témoins rapportent que tous ceux qui sont restés à bord sont morts calcinés. Pour plusieurs personnes contactées, il est difficile pour le moment de connaître le nombre exact des victimes, car il semble que, tout au long du trajet, le chauffeur embarquait d'autres passagers. Par contre, certains rescapés indiquent qu'ils étaient plus d'une cinquantaine à bord. Parmi les victimes se trouvaient des jeunes élèves qui revenaient de vacances à Kolwezi. Le chef du secteur où l'accident a eu lieu indique que sur place, 5 corps ont été ramassés. Il y a eu également des blessés et des rescapés. D'autres passagers sont introuvables. D'après lui, difficile de savoir s'ils ont été aussi calcinés ou s'ils ont fui comme l'accident s'est produit nuitamment. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le vice-premier ministre de la fonction publique séjourne depuis hier mercredi à Bumba dans la Mongala. Jean-Pierre Liaou conduit une délégation du gouvernement central qui est allée exprimer sa compassion aux victimes du naufrage de la semaine dernière et leurs familles. Le drame a eu lieu à 24 km en amont de Bumba sur le fleuve Congo. Le dernier bilan en date fait état d'une soixantaine des corps repêchés et enterrés, ainsi que quelques rescapés et une centaine des disparus. Mais les familles éplorent sont encore loin de se remettre de leur peine. Elles comptent sur l'assistance du gouvernement. Reportage de Paul-Richard Malengela.
La surcharge est la principale cause de notre accident, car le convoi était bondé de marchandises et de passagers, a dit Madame Yvette Mosekangolo, une commerçante rescapée jointe à Bumba. Cependant, elle a tout perdu et ne sait plus se prendre en charge. J'avais un capital de 500 000 francs, j'ai tout perdu, 19 valises de poissons et mes téléphones. Que le gouvernement nous assiste afin d'avoir des moyens de scolariser les enfants, comment vivre avec les enfants et payer le loyer. Quant à Clément Zimbi, un sans-emploi, il reste inconsolable. Il a perdu sa fille de 35 ans qui le prenait en charge. C'est pénible pour moi, je suis chômeur. C'est ma fille qui prenait soin de moi grâce à son commerce. Maintenant, elle m'a laissé ses 4 orphelins. Comment allons-nous vivre? Que les autorités les prennent en charge. C'est également le désespoir pour ce villageois venu de Bokata afin d'enterrer le corps de son fils. Il comptait sur la victime qui a trouvé la mort de retour des vacances. Mon fils devait avoir son diplôme cette année. Sa perte me chagrine. Que l'État organise de bonnes embarcations et interdise des surcharges. À cause de cela, j'ai perdu mon fils. J'ai de la peine. Au-delà du message de compassion lancé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, la plupart des victimes disent attendre une assistance matérielle et financière du gouvernement congolais, mais aussi l'amélioration des conditions de voyage par route et sur fleuve en vue d'éviter ces accidents meurtriers à répétition. Bandaka, Paul Chamalenge, la radio Okapi.
En Ituri, environ 100 000 personnes ont fui les récentes attaques des hommes armés à Komanda et sa périphérie dans le territoire d'Irumu. Ces chiffres ont été publiés ce jeudi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Ituri. Selon OCHA, ces déplacés sont dans un état de vulnérabilité extrême car plus de 70% de cette entité est pour le moment inaccessible à cause de l'insécurité. Isaac Remoyope.
Il s'agit des personnes qui ont fui les attaques à répétition des groupes armés le 23 et 24 septembre dernier, puis le 1er octobre à Komanda, Makayanga et aux alentours. Selon les bureaux de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Ituri, OCHA, environ 95% de la population de Komanda est en déplacement. D'autres continuent à vider les milieux. Ces déplacés sont éparpillés sur trois axes, Irumu Centre, Marabo, Nyankunde et Bunia, certains sur les tronçons Komanda, Mambasa dans les localités de Mungamba, Lolwa et Biakato, et d'autres encore en chefferie de Walendu Bindi dans des villages de Bukiringi et Aveba. Selon OCHA, ces personnes vivent dans des conditions difficiles, pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'eau ni d'abri. Dans certains centres de santé, notamment ceux de Marabo et Nyankunde, il y a rupture totale des médicaments. Plusieurs structures sanitaires dans les lieux de refuge de ces déplacés ne sont pas à mesure d'assurer des soins gratuits à ces personnes. À cela s'ajoute la difficulté d'accès dans 70% du territoire d'Irumu. Plusieurs ONG se sont retirées des commandes. Selon OCHA, le risque des maladies est très élevé dans cette région et nécessite une réponse humanitaire d'urgence. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Enterrement des membres de l'ASENI à l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats a remis hier mercredi son rapport à Christophe Mbosso. Cette commission a travaillé depuis 2 mois pour analyser et approuver les procès-verbaux des différentes composantes et ont désigné leurs candidats pour le prochain bureau de l'ASENI. En croire le président de la dite commission, une plénière sera convoquée dans le jour qui suivent afin d'installer le prochain bureau de la CENI et aller aux élections dans le délai. André Mbata est au micro de Michel Kifindangoy.
Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir d'amener le rapport auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière qui devra débattre de l'enterrement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la Nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est également le souci du président de la République que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Vous aurez tous les détails, le travail était bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale.
Notez que le groupe parlementaire du Front commun pour le Congo FCC n'a pas pris part aux travaux de la commission paritaire à cause de la persistance des profondes divergences sur les principales questions électorales entre les différentes parties prenantes et qu'un consensus sur ces questions constituait une condition essentielle pour la crédibilité du processus électoral et l'opposabilité à tous des résultats des prochaines élections. De son côté, la CENCO s'est dit disposée à revenir à la table des négociations en vue d'aboutir à la désignation des animateurs de l'ASENI. Le processus étant actuellement en impasse, Mgr Marcel Outembi, président de la plateforme religieuse à ces négociations, suggère la poursuite des opérations techniques par le secrétariat de l'ASENI en vue d'éviter le retard dans la préparation des élections de 2023 au pays. C'est ce qu'il a déclaré hier à Kisangani au cours d'un point de presse. Reportage Jacques Mkonkole.
Les confessions religieuses, comme on le sait, ne sont pas arrivées à un consensus pour la désignation du président de la CENI. Pourquoi alors ne pas organiser le vote comme le prévoit leur charte? Selon le président de la CENCO, Mgr Marcel Outembi, le vote comme mode de désignation ne peut intervenir qu'en dernier ressort si toutes les conditions sont réunies. Il s'agit notamment des valeurs de vérité, d'honnêteté, de crédibilité et de justice. Or, celles-ci font défaut, déclare le prélat catholique.
Lorsqu'on s'aperçoit que en amont, il y a des personnes qui développent des manœuvres qui vont à la contre de la vérité, qui vont à la contre d'une valeur morale. On ne peut pas arriver à organiser quelque vote. Nous en sommes arrivés à ce niveau-là.
Quoi qu'il en soit, le président de la CENCO explique que selon la loi organique de la CENI, ne peuvent participer à ce processus que les membres de la société civile et des confessions religieuses ayant une expérience avérée en matière électorale, ce qui n'est pas le cas pour les 6 autres confessions religieuses. Par ailleurs, l'homme des dieux exhorte la population à la vigilance pour, dit-il, qu'aucune personne ni institution ne puisse lui ravir sa souveraineté dans la gestion de la CENI. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au cours de ce même point de presse, l'archevêque de Kisangani a annoncé l'arrivée ce jeudi dans la ville du nonce apostolique. Celui-ci va présider la cérémonie d'ouverture des manifestations relatives aux 125 ans d'évangélisation des missionnaires catholiques de la congrégation de Sacré-Cœur de Jésus à Kisangani. La motion de défiance introduite mardi par le FCC contre le ministre de PTNT a été rejetée hier mercredi au cours d'une plénière agitée à l'Assemblée nationale. La plénière a donc poursuivi l'examen de la question orale avec débat par l'audition de la réplique du ministre Augustin Kibasa et la conclusion de l'auteur de la question, Claude Missaret, qui plaide pour la suppression de la taxe RAM. Cette plénière s'est déroulée en l'absence des députés de l'opposition FCC qui l'ont boycottée pour protester contre la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans la procédure appliquée. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dénonçant la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a quitté la salle. Félix Kabangenoumbi.
Il y a eu une grande réunion de l'Union sacrée où ils ont pris des stratégies à l'encontre des intérêts de la population. Nous devons défendre les intérêts de la population. Le président a présenté 2 points à l'ordre du jour que nous avons tous voté. De quel droit peut-il insérer un autre point qui n'a rien à voir?
Malgré l'absence des députés du FCC, le ministre de PTNTIC a tenté de rencontrer les préoccupations des députés. Augustin Kibasa.
J'ai démontré que le RAM a été un fondement juridique clair découlant de la loi. En outre, sa gestion relève de la compétence exclusive de l'ARPTC et non du ministre des PTNT. À la demande de l'option de suppression du RAM, je me suis remis de manière officielle à la décision du gouvernement.
N'étant pas convaincu des réponses du ministre, l'auteur de la question plaide pour la suppression de la taxe RAM. Claude Missaret.
Je recommande une commission d'enquête parlementaire, établir les responsabilités des auteurs impliqués dans cette escroquerie étatique, la restitution des crédits prélevés illégalement et la suppression de votre taxe RAM.
Il reste donc à savoir si le gouvernement supprimera ou pas la taxe RAM.
La partie civile au procès Floribert Chebeya et Fidèle Bazana s'est dit réconfortée des révélations faites hier mercredi par l'un des exécutants des activistes des droits de l'homme. Selon Peter Ngomo, avocat de la partie civile, c'est ce qu'ils ont toujours soutenu depuis les débuts du procès, mais tout n'a pas été dit. Ils attendent les prévenus à l'audience de mercredi prochain pour lui poser les questions sur les zones d'ombre concernant ses aveux. Suivez Peter Ngomo, joint par Blaise Chindani.
L'opinion nationale internationale a suivi ce qui s'est réellement passé en date du 1er juin 2010, bien que le prévenu n'a pas tout dit. Mais au moins pour l'essentiel, nous avons suivi dans quelles conditions Chebeya et Fidèle Bazana sont arrivés au niveau de l'IG, et dans quelles conditions ils ont été tués, et là où même ils sont partis déposer le corps de Bazana. Donc je pense que sur cela, c'était une très bonne révélation et c'est aussi la confirmation de tout ce que nous avons toujours soutenu depuis l'époque. Voilà une preuve de plus, la part d'un des exécutants de cette opération-là. Tout n'a pas été dit. Nous avons des questions, nous allons revenir la semaine prochaine. Certaines questions sur certains éclaircissements que le prévenu n'a pas répondu par rapport à ça. Nous avons des procès-verbaux, nous avons beaucoup d'éléments que nous allons lui poser. Et donc, nous, ce que nous voulons, qu'il soit clair. Quand on passe aux aveux, on doit tout dire, on ne doit rien cacher. Hein? Il doit être clair pour nous dire, voilà, effectivement, parce que là, bon, pour une première fois, il dit que Paul Milambo était là, il a posé des actes. Bon, nous, on ne sait pas.
Actualité internationale. Malgré l'insécurité qui y règne, la Libye demeure un point de passage important pour des dizaines de milliers de migrants qui, chaque année, cherchent à gagner l'Europe par les côtes italiennes. Mais pour certains, le périple se termine dans des centres de détention en Libye, où plusieurs ONG ne cessent d'alerter sur les conditions de vie inhumaines. Il y a quelques jours, par exemple, 6 migrants africains ont été tués par balles par les gardes d'un centre des détentions à Tripoli. En Taïwan, 46 personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel. C'est jeudi au matin dans le sud de Taïwan, rapportent les autorités. Le feu s'est déclenché pendant la nuit dans ces bâtiments d'une quarantaine d'années et a été éteint à l'aube. Le maire de la ville a déclaré que l'immeuble qui abritait autrefois des restaurants, des bars, à karaoké et un cinéma était en partie abandonné. Le gouvernement a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre.
L'invité.
Le cafouillage et désordre constatés dans les artères à travers le pays avec le transport par moto-taxi est une conséquence d'un manque d'encadrement et textes juridiques. Pourtant, ces moto-taxis répondent énormément aux besoins de déplacement des Congolais. C'est dans cette optique que le sénateur Hippolyte Mutombo-Boué, qui le déclare, a déposé fin septembre à la Chambre haute un projet de loi pour une exploitation efficiente de ce moyen de transport. On l'écoute dans cette interview qu'il a accordée à Billy Van Lutumba.
Monsieur le sénateur Hippolyte Mutombo-Boué, bonjour. Pourquoi penser à un projet de loi portant création de l'ordre des motocyclistes seulement en ce moment?
La proposition de loi que nous avons soumise au Sénat, elle porte création, organisation et fonctionnement de l'ordre des chauffeurs taxi-moto en sigle OCTM. Cette initiative aujourd'hui, c'est pour des raisons évidentes. C'est compte tenu de l'ampleur qu'a pris le phénomène sur le terrain. Ce nouveau mode de transport a envahi les systèmes et est abondamment utilisé à travers le pays, à la faveur naturellement de la dégradation avancée des routes, de l'extension rapide de nombreuses villes, mais aussi de la croissance démographique. Et l'ampleur qu'a pris ce phénomène ou ce mode de transport a amené une sorte de cafouillage, de désordre sur le terrain, avec notamment la circulation des motos dans tous les sens, accrue par l'inexpérience et l'absence de formation continue des conducteurs. Ça a même amené la maltraitance des conducteurs eux-mêmes, ce qui fait qu'il faut organiser ou réorganiser le secteur. Et c'est ce besoin qui justifie que nous puissions aujourd'hui penser à pouvoir créer cet ordre qui va encadrer les conducteurs taxi-moto.
D'après votre projet, comment entrevoyez-vous le fonctionnement de cet ordre?
L'ordre va fonctionner avec 5 organes. Le premier organe, c'est l'Assemblée générale, qui va comprendre tous les membres qui sont dans la profession ou dans le métier, tous ceux qui se seront fait enregistrer à l'ordre, et le conseil d'administration, qui va être composé de 30 membres. Et les 30 membres seront élus un bureau qui sera composé de 5 membres. Et les 5 membres vont pouvoir gérer l'ordre au niveau national. Dans les provinces, Mutatis Mutandis, ce sera la même structure. Il y a les assemblées provinciales qui comprennent tous les membres. Les conseils provinciaux qui auront aussi des bureaux, qui vont s'occuper de la gestion au niveau de province. Et les collèges des commissaires aux comptes qui aura en charge l'audit pour le respect des règles de bonne gouvernance. Le conseil comprendra 5 organes, l'Assemblée générale, qui comprend tous les pratiquants, tous ceux qui seront enregistrés comme membres à l'ordre de conducteurs taximoto, qui sera dirigé par un conseil d'administration qui aura un bureau, et ce bureau va coordonner l'action de l'ordre au niveau national, alors dans les provinces, ce sera les assemblées provinciales avec, bien entendu, les conseils provinciaux.
Hippolyte Mutombo-Boué, les motocyclistes sont déjà dans des associations bien définies. Ne pensez-vous pas qu'avec l'ordre, il y aura un chevauchement dans le fonctionnement?
À la différence des associations dont les adhésions sont facultatives, l'ordre a l'avantage qu'il passe par le Parlement. Donc c'est une loi. C'est d'une adhésion obligatoire. Vous voulez être dans le métier, vous devez vous inscrire à l'ordre et ça vous permet aussi de pouvoir protéger vos droits. L'ordre a aussi l'avantage qu'il y aura la formation continue et puis l'identification même de ces conducteurs moto et leurs motos. L'ordre, ça va être une sorte d'écran, ça va être une structure, interface avec les services étatiques. Il y aura même une commission juridique qui sera là pour défendre leurs intérêts.
Monsieur le sénateur, avant de terminer, le cafouillage, le désordre, c'est décrié beaucoup plus sur la chaussée. L'ordre, c'est pour un encadrement, bien entendu. Mais qu'est-ce que votre projet de loi apporte comme panacée, comme solution pour tenter de mettre fin à ce désordre qu'on vit sur la chaussée?
L'ordre va participer à diminuer les désordres qui prévoient actuellement sur la route. Cela ressort bien naturellement dans son rôle. En premier, je vais donner les grandes lignes. L'ordre va défendre les intérêts des chauffeurs taxi-moto vis-à-vis de l'état des tiers, contrôler la pratique des chauffeurs taxi-moto dans le transport, encadrer les membres dans l'exercice quotidien du transport en commun, concevoir et exécuter les activités d'information et de formation continue des chauffeurs taxi-moto, initier les poursuites contre les personnes non membres qui exercent la profession de chauffeur taxi-moto, participer à faire respecter les dispositions légales et réglementer la circulation routière, mais également recevoir et traiter de plaintes de la population relative au secteur de transport par taxi-moto, sanctionner les chauffeurs taxi-moto fautifs par un mécanisme interne d'autorégulation, collaborer avec les services étatiques comme conseiller technique, puis arbitrer les conflits entre les membres. Déjà dans son rôle, vous comprenez bien qu'il va participer à organiser et à diminuer les désordres qui prévaut actuellement sur le terrain.
Monsieur le sénateur Hippolyte Moutombo-Boubouë, merci.
Ce journal prend fin, coordonné par Élisée Chicota. Il a été mis en onde par Alain Goy. Merci de l'avoir suivi.